Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, nous voilà de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette. Nous allons partager avec vous le goût des bonnes choses et on est heureux. À propos, tiens, les jus et les sauces sont la colonne vertébrale de la cuisine française. Et bien de leurs origines à leurs secrets de fabrication, on va saucer avec le chef Éric Trochon, meilleur ouvrier de France, rien que ça. On ira récolter aussi le piment d'Espelette au Pays Basque pour le cuisiner ensuite. Mais juste avant, laissez-moi vous présenter mes bonnes vivantes du jour, Girl Power aujourd'hui. Aujourd'hui, journaliste gastronomique au Journal du Dimanche, elle a son rond de serviette à cette table. Elle teste les repas livrés par les chefs en attendant de retourner au resto. C'est Charlotte Langrand.
Bonjour Laurent.
Bonjour Charlotte. Je vous présente Ophélie, justement, avec nous samedi dernier. Elle revient en deuxième semaine, amoureuse des vins nature, mais pas que. C'est Miss Glouglou pour les intimes. Bonjour Ophélie Neyman.
Bonjour Laurent, bonjour Charlotte.
Et pour continuer, tiens, ce girl power, j'ai qu'à bien me tenir aujourd'hui. Hein. La chef Hélène Darroze sera notre invitée sur les coups de midi. Eh bien, allons-y, monsieur, dame. Alors, les semaines se suivent et se ressemblent un petit peu, hein, mais alors heureusement, justement, les repas sont là pour créer du rythme et des surprises dans notre quotidien. À propos, quel est votre goût de la semaine? On va commencer par vous, Ophélie, votre goût de la semaine.
Ah, c'est trop bien, c'est l'automne, j'ai fait ma première raclette, j'adore.
Ah.
Et souvent, on dit avec la raclette, il faut du blanc de Savoie.
Oui.
Et moi, je suis pas tout à fait d'accord, je suis amoureuse des vins du Jura et notamment des vins un peu typés. Et là, j'ai goûté un Côte du Jura que j'adore, de Berthet Bondet. C'est bio, c'est de 2014, c'est un peu typé, donc ça flirte avec le vin jaune. Et ça a cette odeur géniale de curry et de noix qui va tellement bien avec la raclette.
C'est bien.
Oui, et puis ça coupe le gras comme ça avec l'acidité. J'adore.
On attend la neige pour aller faire une balade en raquette dans le Jura, justement. Alors c'est drôle que vous parliez de la raclette parce que Mathieu Béliard le disait cette semaine sur Europe 1 dans la matinale. Les ventes d'appareils à raclette explosent en ce moment parce qu'on veut faire des raclettes confinées.
On aime l'ouverture de la saison de la raclette.
Mais voilà,
on
c'est l'aime. Pour ça. Et vous, Charlotte Langrand, votre goût de la semaine?
Alors moi, c'est une alerte à l'addiction immédiate, ce sont des sushis de cochon. Alors ok, on se dit tout de suite là comme ça que non, faut stop à la réinterprétation du sushi dans toutes ses formes. Et là, en fait, c'est régressif, c'est réconfortant, mais c'est plein de finesse grâce au talent du chef Adrien Ferrand. Ça vient des Brigades du Tigre, son nouveau restaurant qui réinterprète un peu la cuisine à la fois bistrot et asiatique.
À Paris.
Et il fait cette petite gourmandise de riz à sushi, de gingembre confit, de coriandre, de champignons noirs en pickles, de moutarde japonaise. Franchement,
ça doit être bien, vous...
c'est disponible à la livraison.
C'est ça, c'est, j'allais dire, vous êtes fait livrer alors.
Bien
c'est
sûr.
Ça, ouais, bravo.
Donc
ouais.
N'hésitez pas, franchement, ça réconforte
mais
surtout en 2020.
Raison. Faut pas se laisser abattre. Eh bien, mon goût de la semaine, moi, c'est celui d'une pâte de légumes. On connaît les pâtes de fruits, et bien c'est celui d'une pâte de légumes à la betterave, au poivron et à la carotte. C'est Jacques Génin, le génial chocolatier qui fait ça depuis quelques mois. Il vient d'en faire des nouvelles avec du fenouil. Je vous ai fait goûter juste avant l'émission. Hein, les filles, vous êtes tombées sur quoi, vous?
Alors moi, j'ai eu betterave et fenouil. Coup de cœur pour le fenouil.
Coup de cœur pour le fenouil.
Moi, j'ai eu poivron, carotte. Eh bien, c'est pas mon truc d'habitude, mais alors là, vraiment, le légume avec un peu de sucre, ça, c'est long en bouche, c'était vraiment pas mal.
Elles sont peu sucrées en plus, hein, des pâtes de fruits. Donc voilà, c'est aussi un petit mot pour vous dire d'aller rendre visite à vos chocolatiers, à vos confiseurs qui restent ouverts. On peut les soutenir en achetant juste une tablette de chocolat ou de belles pâtes de fruits. Et à propos, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Alors on peut se faire plaisir avec un petit peu moins de sucre aussi. Et à propos, je vous signale le nouveau livre, tiens, de Chloé Saada, qui est elle-même diabétique et qui s'appelle Zéro sucre. Voilà, donc on pense à vous qui êtes diabétique et on peut se faire plaisir quand même. Allez, direction le quartier Saint-Servan maintenant à Saint-Malo. C'est à 100 mètres de la mer, ça va nous faire du bien. Julien Amat a promené son micro entre la poissonnerie et les maraîchers locaux, un marché terre-mer comme on aime.
Alors moi j'ai acheté du poisson, des Saint-Pierre.
Il va y avoir aussi des moules que je vais acheter tout à l'heure, donc des moules marinières, ça c'est sûr. C'est les moules de Bouchot de la baie de Mont-Saint-Michel, de chez nous.
Vous n'êtes pas d'ici ?
Pas du tout.
Oh, bah alors là, il faut absolument les goûter, hein, ça.
C'est 3 par 3 ?
Par 4.
Par 4, alors on y va par 4. Alors, 11,26. J'ai acheté poireaux, navets, pommes de terre.
Des choux de Bruxelles, des oignons et de la salade. Et puis on sait d'où ça vient pas de loin. 7 km à côté de Saint-Malo, où il y a beaucoup de maraîchers, beaucoup de producteurs de légumes, c'est assez rural.
Là, l'eau poisson qui est derrière, avec des pêcheurs qui viennent de Saint-Brieuc directement avec les coquilles Saint-Jacques.
On a des marchandises qui viennent de Saint-Malo, Erquy, Saint-Quay.
et un petit peu de Bretagne Sud. Il y a beaucoup de sèche aussi cette année, c'est une année à sèche et en cornet qu'on arrive à avoir en direct du pêcheur, donc c'est plutôt sympa.
Bah là, tout m'attire. Coquille Saint-Jacques, ouais, les huîtres un peu moins, mais les araignées de mer aussi, ça c'est... On a mangé une la semaine dernière et on s'est régalé.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir, messieurs, dames, et nos amitiés aux habitants de Saint-Malo qui nous écoutent et de toute la Bretagne même. Coquillage ou crustacé, Ophélie ?
Oh, les deux, j'adore ça. Et surtout, j'ai un ostréiculteur d'Oléron qui vient directement au marché en face de chez moi avec ses huîtres. Et j'ai du mal à résister quand je passe devant le samedi.
Ah, une petite Saint-Jacques.
Hein. Oui, c'est la saison des Saint-Jacques, des huîtres. Et puis alors, moi j'aime bien les moules, mais j'aime bien une petite alternative, ce sont les couteaux.
Ah oui.
Parce que c'est plus rapide à faire comme ça, dans la poêle, avec
une
persillade.
Mais voilà.
Bah oui,
oh, bah oui, tiens, on va faire ça. Bah non, j'ai pas le droit de vous inviter. J'allais dire, on va se faire ça, mais on n'a pas
non,
le droit.
Non, mais par contre, je garde l'invitation
voilà,
pour après.
Absolument, on va se rattraper, vous avez raison. Vous avez envie d'un petit coup de chaud, chers auditeurs ? Eh bien, ne bougez pas, on va récolter et sécher le piment d'Espelette dans un instant. Bon samedi sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Il pique mais ne chauffe pas. Comme la pelote, il fait la fierté du Pays Basque. Et bien ce matin, nous allons prendre la poudre, non pas d'escampette, mais d'espelette pour pimenter et relever nos assiettes. Alors c'est vrai que c'est le cousin du poivron, hein, le piment d'espelette. C'est une petite corne rouge cultivée et récoltée pile en ce moment dans l'arrière-pays. À pas confondre avec le piment vert d'Anglette ou le piment basque qui est son cousin et qui habite dans la région aussi. Et si on doit remonter le fil de cette histoire, Charlotte Langrand, c'est une histoire de fille, une histoire de femme.
C'est une histoire de femme parce qu'elles ont commencé à le cultiver vers 1650 dans la commune, évidemment, d'Espelette, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, parce que en fait, c'était un bon moyen pour elles de remplacer le poivre qui était assez cher à l'époque. Et c'est ensuite, à partir du XVIIe siècle, que ça a été vraiment, qu'il a été utilisé comme une épice qui servait pour la conservation des viandes et des jambons.
La belle histoire du piment d'Espelette, et il faut rendre hommage à un collectif de producteurs dans les années 80 qui a remis au goût du jour ce piment d'Espelette qui commençait à être galvaudé. Tout le monde en France commençait à dire « je fais du piment d'Espelette » alors que ça n'en était pas. Et ce collectif a vraiment préservé la vitalité du piment. Et en tant que chevalier de la confrérie du piment d'Espelette, je peux vous dire que je l'adore. Vous aimez le cuisiner, Ophélie, Neyman aussi, le piment d'Espelette ?
Moi, j'aime bien l'utiliser en poudre surtout. Et par exemple, avec de la mousse au chocolat. Ça permet de relever, ça permet de pimenter un petit peu, ça donne un peu plus de caractère à ma mousse.
Ça c'est vrai, ouais. Puis c'est bien, c'est tonique pour la Saint-Valentin, ça c'est bien, c'est un petit côté aphrodisiaque. Alors j'étais en reportage au Pays Basque il y a 15 jours et je suis allé voir Vincent Darichon de la maison du piment à Ustaritz, c'est la zone d'appellation du piment d'Espelette. Hein. Et il est passionné, il est exigeant et il venait de récolter les belles cornes rouges de piment. Et il nous parle, tiens, de l'importance du séchage pour avoir un piment de qualité.
On récolte les piments rouges uniquement, hein, qu'ils aient vraiment gagné de la maturité et du sucre sur la plante. Et une fois qu'on le récolte, on les étale sous serre, sur des clés. Ça fait vraiment des tapis de piments rouges.
Ah oui, c'est un rouge intense, ils sont devant nous, là, c'est magnifique. Là.
Ouais, c'est très très beau. Tout est fait à l'œil et à main d'homme. Quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui vois que bah, du coup, il est bien mûr, il est prêt à être mis à sécher. Le fait de les laisser sur les clés, la maturation du piment continue. Le rouge va devenir un petit peu plus bordeaux. Le piquant va s'équilibrer. Et la dernière étape de séchage au four, ça va vraiment stabiliser les arômes, le piquant, la couleur. Là, celui-là, c'est un piment qui a bien séché, donc il atteint une maturité optimale. On peut même le goûter. Certains piments agressent tout de suite le palais. C'est le côté coup d'aiguille qui, des fois, prend la bouche. Le piment d'Espelette, il est plutôt chaud, il est comme un bon vin, je dirais. Il tire le goût et les saveurs du plat, en fait, longtemps en bouche. Quoi. D'ailleurs, il y a une expression basque. On dit d'un plat qu'il est bichi bichia, ça veut dire qu'il est vivant, qu'il est plein de vie. Donc justement, on se sent vivant quoi, quand on mange épicé.
Eh ben, ça fait du bien. Sentons-nous vivants, effectivement. Et c'est vrai que c'est joli en ce moment. Vous allez derrière la maison du piment de Vincent Darichon et dans toutes ses serres, il y a les clés, comme il dit, qui sont des grands rayonnages où sèche le piment et qui prend cette jolie couleur. Il en fait du gros sel au piment d'Espelette. Vous trouverez aussi des piments d'Espelette aux aromates. En gelée aussi, ça existe, le piment d'Espelette. Vous le trouverez facilement partout en France dans le commerce. On peut le mettre dans une salade pour aromatiser une vinaigrette, par exemple.
Oui,
Charlotte.
Et puis on peut le cuisiner frais aussi, en fait. Parce qu'on le fait vraiment revenir comme ça à l'huile d'olive. Et puis ensuite,
on l'intègre à une omelette ou on le sert en accompagnement avec par exemple un agneau de lait.
Oui, ça se fait beaucoup très bien, dans la région, exactement.
On a l'habitude en poudre, mais finalement,
ça se cuisine frais. Vous avez raison, absolument. Et dans la région, on le fait régulièrement pour en mettre dans une pipérade aussi, par exemple. On met du basque vert, mais on pourrait changer et mettre du piment d'Espelette aussi. J'adore le piment d'Espelette. Je parlais du gros sel au piment d'Espelette. J'ai fait des frites, moi, cette semaine avec une côte de bœuf. Alors attention, parce que quand vous achetez ces mélanges de gros sel, ça reste quand même assez salé. Hein. C'est pas parce qu'il y a que du piment qu'il n'y a plus de sel. Donc faites attention de ne pas trop doser. J'ai un peu dosé fort sur les frites, moi. Donc une autre mousse au chocolat au piment d'Espelette, Ophélie Neyman.
Ah, mais quand vous voulez. Moi,
pour la route. Allez, c'est l'heure de répondre à vos questions, chers auditeurs.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Et pour cela, nous accueillons Fanny Rascle. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour les filles.
Soyez la bienvenue. Trois filles avec moi aujourd'hui en studio, ça ne rigole pas. On pose toujours les questions sur notre page Facebook du groupe Les Bons Vivants.
Oui, ou au 3921 si vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses ou d'une astuce en cuisine, nous sommes là. On commence par un premier message reçu sur le répondeur. On parle légumes cette semaine.
Bonjour les bons vivants, je m'appelle Cécile, j'habite à Lannion en Bretagne. Avec mon dernier panier de la MAP, j'ai eu des topinambours et alors je n'en ai jamais cuisiné. Donc je voudrais savoir comment ça se prépare, surtout s'il faut les éplucher ou pas, et avec quels légumes ou quels poissons ou viande je peux les accompagner. Merci beaucoup.
Mais merci Cécile, la MAP, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Vous êtes peut-être abonné à une AMAP, chers auditeurs, et c'est vrai qu'on fait des découvertes saisonnières chaque semaine. Vous poseriez le même genre de questions, je pense, Ophélie. Hein.
Ah oui, oui, moi ça m'embête. J'adore les topinambours avec leur odeur de noisettes châtaignes, mais alors à peler, j'y passe des heures, j'y arrive pas.
Vous savez quoi? Vous ne les pelez pas? On les brosse tout simplement, bien sûr. C'est un peu noueux le topinambour. Il suffit simplement de bien le brosser avec une belle brosse sous un filet d'eau.
On le nettoie
tout simplement. Voilà, on peut l'éplucher, mais juste bien brosser, ça suffit.
Changer ma vie.
Mais voilà, vous parliez de son petit arôme de noisette châtaigne au nez, mais en bouche, il a un petit goût d'artichaut aussi, le topinambour. C'est ça qui est délicieux. On peut en faire des cocottes, hein, Cécile qui nous pose la question, des cocottes de légumes oubliés, comme on dit, avec du panais, du topinambour.
On peut
mettre du navet boule d'or aussi à l'intérieur, 45 minutes dans de l'huile d'olive en cocotte. Et moi, j'aime bien en faire aussi une sorte de crique ardéchoise. Vous savez, ce beignet de pommes de terre avec des pommes de terre. Vous mélangez pommes de terre et topinambour râpé avec de l'ail et du persil. Et vous faites des galettes que vous pressez bien et vous les faites revenir dans un petit peu d'huile à la poêle. C'est délicieux, ça. Le mariage de la pomme de terre et du topinambour, c'est un très, très beau mariage. Voilà, Cécile, on espère qu'on vous a aidé. Fanny ?
Oui, une question de Yolande sur Facebook qui se demande si on peut utiliser les feuilles de chou-fleur dans un potage ou dans une autre recette. On est vraiment sur des questions légumes.
Ça nous rappelle l'émission qu'on a faite il n'y a pas très longtemps sur comment recycler, justement, ne pas gaspiller utiliser d'un légume.
Qu'est-ce qu'on fait alors des feuilles de chou, Charlotte Langrand ?
Écoutez, alors moi, à part de les utiliser comme présentation pour faire une jolie présentation de ce que je vais mettre à l'intérieur, je crois que je vais m'en remettre à vous, Laurent.
Pour présenter les nouveaux-nés, c'est ça en fait.
C'est ça, exactement.
Non, mais c'est vrai qu'on peut les cuisiner. Julien Amat, qui travaille avec nous, a fait quelque chose de délicieux l'autre jour. Il les taille très finement, les feuilles de chou, avec les côtes aussi, vous savez, les côtes qui entourent le chou-fleur. Ah oui. Eh bien, on peut tout ça menu, on les fait revenir dans un petit peu d'huile de sésame et on accompagne ça d'un riz sauté par exemple et on le parfume, même on peut casser un œuf au milieu, on peut faire un riz frit, enfin voilà, on peut les mettre
façon wok
Fanny Rascle, absolument, vous faites bien sauter ça à feu vif comme on ferait en Asie dans un wok avec une grande poêle, ça marche très très bien.
Comme
ça.
On cuisinerait des vers de poireaux ou des choses comme ça
on peut les mixer aussi, les feuilles et les côtes, vous les faites cuire dans un petit bouillon et vous les mixez, vous faites un velouté, c'est délicieux ça aussi par exemple.
Ah bah je vais essayer ça. Très bien, d'habitude je les donne aux chevaux, mais alors...
Non, malheureuse, mangez-les. Un velouté de feuilles de chou avec les côtes de chou et un petit peu de crème et une pointe de curry. Fanny, ça vous branche hein ?
Bon appétit à vous.
J'adore l'idée.
On continue à poser les questions. Hein.
Exactement. Sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes par minute, sur Twitter, sur Facebook évidemment. Et puis pour retrouver toutes les recettes et les conseils de l'émission, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter cuisine. Elle arrive dans votre boîte aux lettres tous les dimanches, pile quand vous manquez d'idées pour préparer le repas. C'est
exactement.
Parfait.
Il y a des recettes, il y a des conseils et puis il y a les meilleurs coups de fourchette de nos invités. Et à propos, nous allons recevoir Hélène Darroze tout à l'heure sur les coups de midi. Merci Fanny et ne bougez pas, on vous retrouve dans un instant pour le journal de la cuisine. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Pas de bonne cuisine sans jus, sans sauce, de la bordelaise à la bourguignonne en passant par le jus de veau. On va saucer avec le chef Éric Trochon, meilleur ouvrier de France. Mais juste avant, voici les titres de votre journal de la cuisine, chère Fanny Rascle. Un nouveau logo pour les produits frais et locaux, le cri de colère d'un restaurateur breton et une recette de gâteau spécial élection aux États-Unis. Fanny, un nouveau logo va faire son apparition dans nos supermarchés.
Oui, pour repérer les produits frais et locaux. C'est vrai qu'on s'y perd avec tous ces labels, ces étiquettes artisanales, ces mentions élaborées en France.
Ouais.
Le gouvernement veut donc clarifier les choses. Le ministre Julien de Normandie l'a annoncé sur notre antenne et la grande distribution a signé une charte en ce sens cette semaine. Alors concrètement, sur ce logo ou sur cette bannière plutôt, on pourra lire « Plus près de vous et de vos goûts ». Ça concernera les fruits, les légumes, la viande, le poisson et ça permettra donc de repérer d'un coup d'œil les produits français, frais, locaux. La mention « transformée en France » va être supprimée si les ingrédients de base ne viennent pas de France.
Ah, ça c'est bien.
Patience cependant, il va falloir attendre février de l'année prochaine pour que ça soit opérationnel. Et puis c'est un système de charte, pas d'obligation. Il va falloir surveiller de près que chacun joue bien le jeu.
Vous avez raison, surveillons de près que ça ne devienne pas un énième gadget encore comme on peut le voir de temps en temps. Il faut que ça soit vraiment bien respecté et que tout le monde justement joue le jeu. On s'intéresse maintenant à la colère d'un restaurateur dans le Morbihan en Bretagne.
Oui, sa vidéo a suscité beaucoup d'émotions cette semaine. Laurent Gorion se filme à l'heure du service du soir dans une zone commerciale de Pontivy, juste en face de lui, il y a une file impressionnante de voitures qui attendent devant un McDonald's. Lui, il a mis en place la vente à distance dans son restaurant, mais il n'a quasiment pas de clients. Il est en colère, bien sûr, mais c'est pas une attaque contre McDonald's. Mmh. Il l'a expliqué ensuite dans les colonnes de Ouest France. Son message, c'est surtout un appel aux consommateurs. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses.
Oui, vous avez raison. Comme disait Jean-Pierre Coff, ne soyons pas consommateurs, devenons consommateurs, justement, et on peut aller acheter en livraison à côté parce que McDo a une logistique terrible qui, effectivement, est un rouleau compresseur face à ces petits bistrots.
Oui, mais il faut le savoir. C'est vrai qu'on nous dit tellement que les restaurants sont fermés qu'on oublie complètement qu'on peut emporter.
Vous avez
raison.
Absolument.
Le chef Laurent Ladène aussi, près de Lille, a aussi poussé son coup de gueule dans la, même veine.
Cliquons et collectons au resto. Et puis pour finir, votre journal de la cuisine, Fanny Rascle, une recette de gâteau qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis.
Oui, son nom c'est The Election Cake. Alors c'est pas une nouveauté, la recette aurait été publiée pour la première fois en 1796. Mais le New York Times raconte que les Américains ont ressorti cette recette depuis quelques jours, pendant que les avocats de Donald Trump contestent ce qui n'est plus contestable. Ils pâtissent. Dans le détail, c'est une sorte de cake au raisin, mais avec une pâte levée et beaucoup, beaucoup de cannelle. On est aux États-Unis.
Bah oui.
Et au XVIIIe siècle, ce Election Cake pouvait peser jusqu'à 5 kilos, bah tout simplement pour être mangé par tous ceux qui dépouillaient les bulletins. Make pâtisserie great again. Voilà le slogan de la journée.
Eh bien, pâtissons. Voilà, quitte à être confinés, pâtissons, élection ou pas élection. Merci Fanny Rascle.
Avec
plaisir.
Et merci
à bientôt à notre table des bons vivants.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors, vous avez remarqué, hein, si vous habitez à la campagne, les champignons sont de sortie. Alors, confiné à Paris, le camarade Jean-Luc Petit-Renaud a décidé de nous y emmener malgré tout. C'est dingue.
Ah bah, il a bien raison.
Oui.
Ouais, mais vous devriez vous dire, mais comment c'est possible avec les déplacements qui sont limités, qui sont interdits?
Avec lui, tout est possible.
Eh bien, exactement. Que les hautes autorités se rassurent, Jean-Luc se souvient pour nous de ces grandes cueillettes de champignons et on aurait bien aimé y être.
Bonjour, bonjour les cueilleurs du week-end. Alors moi, j'ai de jolis souvenirs avec un sport particulier qui est la cueillette des champignons. Pour être au point, j'ai suivi des cours, des leçons. Je me suis rendu dans la forêt d'Andenne, à Bagnoles de l'Orne, exactement au manoir d'Ulysse. Il y a là une famille formidable et la famille Quinton a une connaissance fabuleuse de la traque du bolet, du chevalier baguet dans les prés normands, de la girole, du pied de mouton qui adore se prélasser, vous savez, dans des belles crêpes fraîches en ragoût. On apprend ainsi à cueillir, à mijoter avec Franck, le fils cuisinier. Une belle aventure qui, pour l'instant, bien sûr, a été suspendue, mais va revenir très vite, je l'espère. Je me souviens aussi de Régis Marcon, vous savez, le fantastique 3 étoiles de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, qui, un jour, rentrant de balade, avait trouvé un rond de sorcière de petits mousserons, vous savez,
tout petits
champignons. 2-3 poignées, pas plus. Il m'a déposé sur une assiette avec un trait de citron, un tout petit peu de vin blanc de Condrieux. On attrapait comme ça le petit champignon par la queue. C'était sublime, tout simple. Ces chefs sont surprenants, réceptifs, capteurs d'instant. C'est pour ça que j'adore leur emboîter le pas et aiguiser mon regard pour ne jamais rentrer bredouille de ma balade. Et ainsi, parader comme le coq cocorico au cours de mes chroniques.
Bah oui, bah, vous êtes le bienvenu, camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Vous le savez, vous avez votre ronde serviette à cette table. On aime vous retrouver régulièrement le samedi avec nous. Et voilà, c'est une bonne balade de champignons qu'on n'est pas rentré bredouille en plus, comme ça, avec tous ces beaux souvenirs.
Ça sent le sous-bois, là, c'est bien.
Qu'est-ce que vous aimez comme champignons ?
Ah, bah, écoutez-moi, je vous dirais peut-être les girolles.
Ouais,
les girolles ou alors tout simplement les champignons de Paris, parce que c'est simple, c'est pratique. La petite poêlée, là, comme ça, c'est.
Puis ça se trouve plus facilement.
Ça se trouve vraiment très facilement.
Ça pousse dans les boutiques. Et vous, Ophélie ?
Ah, moi, j'adore les morilles, mais je suis surtout une grande chasseuse de cèpes. Vous me mettez dans une forêt et j'ai un œil d'aigle pour les cèpes.
C'est vrai ?
Ça, c'est beau. Un carpaccio de cèpes, comme ça, tout simplement, avec une belle huile de noisette et quelques copeaux de parmesan.
Et c'est joli. Ça se mange cru aussi, les champignons, faut pas l'oublier.
Exactement.
C'est délicieux.
Pas tous, mais le champignon de Paris, comme le cèpe, peuvent évidemment se manger cru. Et à propos de champignons, tiens, je vous signale le très beau livre de Jean-Baptiste Coquelaire aux éditions de La Martinière. On l'avait reçu ici. Ça s'appelle Des cueillettes et des hommes. Il y a plein de belles recettes de champignons et plein de beaux focus sur les champignons.
Il faut faire quand même vérifier si vous vous lancez dans une cueillette personnelle chez le pharmacien, si tout est OK avant de vous lancer dans la poêlée.
Vous commencez avec quelqu'un d'aguerri.
Les jus et les sauces, ce sont la carte d'identité et l'ADN de notre gastronomie. Alors, en attendant de retourner au restaurant pour saucer, nous allons revenir sur les secrets des grandes sauces pour les réaliser à la maison, ce week-end, la semaine prochaine. Et suivez le guide, les amis. Il s'appelle Éric Trochon, c'est le chef des restaurants Semilla, Freddy's et Solstice à Paris, meilleur ouvrier de France et auteur d'une Bible que j'adore. Je dors avec, pour tout vous dire. C'est le livre Sauce, paru aux éditions Duchesne. Bonjour Éric Trochon.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Hein.
Ben, merci de me recevoir par ces temps un peu troublés pour nous les chefs.
Comment allez-vous ? Vous résistez avec la vente emportée en fait. Hein.
Voilà, on est en train de monter de la vente à emporter, mais ce qui est un autre travail, donc qui demande effectivement une préparation un peu différente.
Une autre logistique.
Absolument.
Et pour des plans sauce, encore plus. Hein, c'est-à-dire
ah
que...
oui, parce que moi, c'est vraiment ma carte de visite, c'est la sauce. Donc, ça va être des plats à saucer. Ça va nous réconforter là pour l'hiver.
Vous êtes enseignant aussi à l'excellente école Ferrandi à Paris. Les sauces et les jus font partie des premières choses de l'apprentissage. Vous vous souvenez de votre première sauce, justement, que vous avez réalisée ?
Alors, pas celle que j'ai réalisée, mais celle que j'ai vue faire. C'était à la Pérouse dans les années 80. Et c'était une sauce hollandaise par un chef dans une grande casserole en cuivre. Et j'étais absolument fasciné. Et c'est ça que je pense déclencher cette vocation, en tout cas cet amour des sauces.
Une émulsion un peu chaude comme la béarnaise, la hollandaise.
Voilà, voilà, hollandaise classique, mais très très impressionnante parce qu'il en faisait beaucoup. Il devait en faire 3 ou 4 kilos pour le restaurant et c'était, pour moi, c'était magique.
Alors on va parler des sauces et des jus. À ne pas confondre, en un mot, juste avant qu'on aille précisément dans le vif du sujet, c'est quoi la différence entre une sauce et un jus ?
Disons qu'une sauce, c'est un plat en soi. Hein. C'est d'ailleurs ce qui fait toute notre différence par rapport aux autres cuisines. Un jus, c'est plus un déglaçage. Et en général, les jus ne sont pas liés ou s'ils sont liés, c'est très, très légèrement. C'est beaucoup plus fluide, en fait.
Alors, en ce moment, on est confiné à la maison. On ouvre une petite bouteille de vin de temps en temps se faire plaisir. Hein. Voilà. Et parfois, il reste du vin. On peut peut-être en faire des sauces de ce vin-là, hein, Éric Trochon.
Alors, ça dépend lesquelles. Non, les sauces, ça demande quand même un peu d'attention et il faut respecter le produit. Alors, on les mettra plus facilement dans un sauté ou si on fait un bourguignon, quelque chose. Mais pour la sauce, c'est bien de respecter le vin éponyme, en fait, si vous faites une bourguignonne.
Je vous taquine, mais c'est vrai que le vin a une importance capitale. Il ne faut pas prendre non plus là des premiers prix et des choses comme ça, parce qu'il va donner du corps et du caractère à la sauce. Parlons de la bordelaise, par exemple, qu'on confond souvent avec la bourguignonne.
Oui, effectivement, la bordelaise, ça nécessite un Bordeaux. On n'a pas besoin d'un vin extrêmement cher, mais il faut un vin qui ait de la tenue pour qu'en finale, on ait une belle coloration sans excès. C'est important, souvent, quand on est jeune chef, on veut des sauces très foncées. Alors on prend des syrahs, on prend des choses comme ça. Mais les tanins, ce n'est pas un avantage dans la sauce, en fait, une fois réduit. Et il vaut mieux recolorer sa sauce avec ce qu'on appelle un petit miroir, c'est-à-dire une réduction avec une pincée de sucre à part. Et là, on redonne un peu de couleur, un peu de vivacité à la sauce. Mais au départ, prenons plutôt des vins bien équilibrés.
Les ingrédients de la bordelaise, alors ?
Eh bien, c'est une réduction échalote vin rouge avec, normalement, du jus de veau, et puis on termine par des dés de moelle.
Et vous disiez tout à l'heure que c'était vraiment ce qui avait fait la différence entre notre cuisine et d'autres, par exemple. Effectivement, je crois qu'il y a même Talleyrand qui disait qu'il y a en France 360 sauces et 3 religions, et en Angleterre, 3 sauces et 360 religions, ouais, quelque chose comme ça. C'est toujours cette bonne vieille guerre entre les cuisines.
Voilà. Oui, c'est une guerre qui est un peu... qui est un peu injuste parce qu'en fait, Escoffier a travaillé à Londres pendant longtemps et a importé dans la cuisine française beaucoup, beaucoup de sauces.
Carlton, oui.
Voilà, et notamment la Cumberland ou la Yorkshire ou des choses comme ça. Donc, vous retrouverez dans le livre qui sont
des sauces. C'est quoi comme sauce, la Cumberland?
Cumberland, c'est une sauce pour les apprêts de gibier qui est fait sur une base de groseille, de gelée de groseille avec réduction de Porto et orange. Et c'est assez marrant.
C'est parfait pour la saison, ça, parce qu'on est dans la période de chasse. Et, ouais. Et vous nous avez apporté donc cette belle bordelaise, là, je l'ai, alors je trempe mon doigt dedans. On n'a pas de pain. Ah si, il y a du pain.
Ah, voilà. Si, y a du pain.
Ah, voilà, parce qu'il faut saucer.
Saucer.
Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne.
Ah, elle est délicieuse.
Ah, c'est délicieux. Moi, je voudrais juste revenir sur le vin.
Ophélie.
Parce qu'effectivement, une bourguignonne, on n'a pas trop de soucis généralement, parce que les bourgognes sont peu tanniques, donc on peut y aller franchement, on prend un petit bourgogne un peu fruité. Et effectivement, le risque avec la bordelaise, c'est de prendre un vin de Bordeaux un peu lambda au supermarché, qui va être artificiellement gonflé en tanin et en arôme boisé. Et au final, on aura une sauce asséchante, parce que les tanins, effectivement, auront un peu trop asséché la sauce.
Tout à fait d'accord.
Comme vin alors justement pour faire ça.
Bah pour celle-là, vous prenez un Bordeaux, pas forcément une appellation, mais vous
un Bordeaux supérieur.
Un Bordeaux supérieur, oui. Mais de bonne tenue en fait. Il faut pas qu'il soit trop acide parce que ça c'est vous aurez du mal à le supprimer en finale.
Un équilibre parfait.
En fait la sauce c'est l'équilibre. Et la cuisine française c'est l'équilibre. C'est jamais trop puissant ou trop doux. C'est et bon le petit secret là c'est qu'on rajoute au dernier moment un trait de vin rouge à cru dans la sauce qui va lui redonner de la vivacité.
Avec une côte de bœuf, ça c'est délicieux, ça
ah
par
bah,
exemple.
Avec tout ce qui est viande rouge, c'est même un rôti, hein, même un rôti entre côte de bœuf.
Alors ça, c'est une sauce, on l'appelle sauce rouge, sauce brune, celle-ci.
Alors celle-ci, c'est ça fait partie des sauces brunes, mais bon la classification, on oublie un petit peu.
C'est hein,
ça, c'est un truc de vieux chef. Enfin, je dis ça parce que je suis vieux, mais
un vieux jeune. Il y a les sauces blanches. Alors, si on veut s'amuser justement à schématiser, la sauce de la blanquette, c'est une sauce blanche.
Alors, c'est une sauce blanche, c'est une sauce suprême qu'on a transformée avec une liaison dite riche, donc jaune d'œuf et crème qu'on rajoute au dernier moment. Voilà, vous en avez...
Oui, parce qu'il faut dire quand même que c'est quoi c'est avec l'arrivée du beurre, en fait, qu'on a vu arriver les sauces modernes. C'est ça qui a tout changé par rapport au tout début où il y avait plutôt... on disait se faire saucer, parce que saucer, c'était plutôt se prendre la pluie. C'était de l'eau, c'était du liquide. Et fur et à mesure, c'est devenu moins liquide et c'est devenu vraiment des vraies sauces.
Alors, il semblerait que ça soit venu, en fait, avec l'arrivée des cuisiniers d'Anne d'Autriche.
C'est ça.
Qui ont amené le roux... dans la cuisine française.
Oui. Le beurre, la farine,
le beurre et la farine, absolument, ces fameux roux que tout le monde connaît. Et d'où cette sauce éponyme qu'on appelle l'espagnol, qui ça. Était devenue un peu fin 19e, la sauce à tout venant de la cuisine française. Et dont les roux ne sont pas natifs. Nous, on liait traditionnellement, si vous prenez les viandiers, enfin des très vieux livres de cuisine, on liait à la mie de pain, éventuellement, voilà, avec des réductions, mais on ne liait pas à la farine, non.
Alors, chers auditeurs, si vous voulez faire des sauces ce week-end, il y a un seul livre à avoir si vous voulez faire des sauces et les réussir, surtout. C'est le livre Sauce, leçon en pas à pas aux éditions du chêne du chef Éric Trochon qui est avec nous. Et ne bougez pas, parce qu'on revient dans un instant. Et là, on va se mettre tous au jus. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
On se régale, on vient de l'entendre, hein, les sauces sont nappantes, réconfortantes. Vous pourrez retrouver le podcast justement avec tous les conseils pour les sauces. Et maintenant, on va se mettre au jus avec le chef Éric Trochon, meilleur ouvrier de France, auteur du livre Sauce, leçon pas à pas aux éditions Duchesne. Alors, il ne faudrait pas effectivement laisser Éric les jus sur le bord de l'assiette. Hein, ils sont généreux, ils sont parfumés.
Mmh. C'est vrai que ces dernières années, ils ont pris le pas sur les sauces. Mais les sauces reviennent à la charge, hein, pas d'inquiétude. La mode des bikinis a fait que les sauces, quand même, étaient un peu riches, un peu lourdes. Donc, on y a préféré les jus. Mais un jus, c'est pas n'importe quoi. Donc, vous me demandiez tout à l'heure quelle était, de mémoire, la première sauce que j'ai vu faire. C'est probablement, effectivement, dans un restaurant, la hollandaise. Mais l'autre, c'est celle du rôti du dimanche, ce que j'appelle le jus à mémé. C'est les oignons coupés autour du rôti, dans la plaque. On récupère les sucs de la viande en fin de cuisson, un petit peu d'eau, tout doucement. Et puis, je déglace ces sucs et je les mets dans une petite casserole. Et voilà.
Alors, mais vous avez raison, mais le jus de mémé, tout le monde ne le réussit pas. Et souvent, à la maison, on a envie de faire un jus pour le poulet du dimanche, par exemple, pour un gigot d'agneau ou pour le rôti, comme vous le dites. Quand on fait le rôti, par exemple, au four, donc on retire la plaque dans laquelle le rôti a cuit. Et c'est dans cette plaque-là qu'on va donner naissance au jus, en fait.
Absolument. Hein, et c'est là, il y a un tour de main, effectivement. Mais ça, nos grand-mères savaient très bien le faire. C'était de couper d'abord quelques échalotes ou quelques oignons finement. sous le poulet ou sous le roast beef, une petite gousse d'ail écrasée en chemise, thym laurier du jardin.
Ouais.
Et voilà. Et surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas faire brûler les oignons, parce que là, vous récupérez de l'amertume.
Et après, ensuite, on déglace. Là.
Et on déglace. Et au déglaçage, c'est cuillère par cuillère. On mouille pas et on fait réduire. Ça, ça amène à rien. C'est délicatement, cuillère par cuillère, on va mouiller, on va reconcentrer à chaque fois et on va remouiller. Ça prend une dizaine de minutes, mais ça, c'est vraiment la réussite. Et surtout, on ne dégraisse pas. Le gras, c'est la vie.
Mais oui.
Ça doit être un peu grassouille, un vrai
voilà.
jus.
C'est... Bien sûr.
Alors, nous, au restaurant, on les dégraisse parce qu'on en a des grosses quantités, mais on reperle. On appelle ça perler. Hein. Un jus, ça doit perler.
Comme une vinaigrette.
Comme une vinaigrette. Vous devez avoir cette petite perle de gras et vous sentez le côté rôti, en fait, dans le gras.
Ça marche aussi avec la saucisse purée, hein, déclassée.
Ah,
et puis le petit puits dans la saucisse. Enfin,
voilà,
je ne vous fais pas l'histoire. Hein,
mais... On a tous connu ça. Vous êtes le chef de Sémilla et de Solstice à Paris, Eric Trochon. Quel est le jus qui a le plus de succès dans votre restaurant?
Je pense que c'est plutôt le jus de veau rôti, celui que je vous ai amené à déguster.
Il
là.
Est là.
Et il faut savoir qu'au restaurant à Solstice, donc on a été étoilé en 2020, toutes les sauces et tous les jus sont servis en saucière. Et je trouve que c'est très important de ne plus avoir des assiettes qui baignent, mais plutôt de venir devant le client, servir son convive en fait. Et un côté à la fois généreux, il y a des gens qui en veulent plus, il y a des gens qui en veulent moins, et ne pas repartir avec la saucière, mais la laisser sur la table pour les gourmands.
Exactement, et sur votre piano de cuisson, on voit tous ces jus d'ailleurs
voilà,
qui sont en confection, tenus à température.
Absolument.
Et comment vous le faites ce jus de veau, par exemple? Alors tiens, un plat régressif qu'on peut tous faire ce week-end, moi j'adore ça, c'est les coquillettes jambon beurre. Avec un jus de veau, elles prennent une autre dimension. Les coquillettes jambon beurre. Comment vous le réalisez, ce jus de veau?
On demande à son gentil boucher de nous garder quelques parures de veau, hein, c'est-à-dire, lui, il en a en général pas mal. On les coupe en tout petits cubes, très important. On les fait rôtir avec un tout petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Et quand elles sont bien caramélisées, à ce moment-là, on les déglace, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un petit peu d'eau, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Éventuellement, avant, on a rajouté une échalote coupée en quatre. Pas de carottes, pas de poireaux, pas de céleri.
D'accord.
C'est pas un jus de légumes,
oui.
Hein, c'est un jus de viande.
Neutre.
Ça, c'est très important. On va chercher le côté jus de viande. Et c'est le rôtissage et le fait de conserver la graisse naturelle de la viande qui fait ce côté un petit peu jus rôti.
Vous filtrez, par exemple, après?
À la fin, on filtre. Des questions, simplement, nous, en cuisine, d'élégance dans la sauce. Il ne doit pas y avoir de point. Et quand même, ça doit avoir une certaine tenue.
On vous mettra la photo de ce jus de veau sur europe1.fr. C'est à tomber. Ophélie Neyman.
Oui, moi, je tenais à dire quand même qu'il y a un instrument que j'adorais quand j'étais petite avec la saucière. Ma maman a beaucoup cuisiné avec les sauces. C'est vraiment une chef accomplie en matière de sauce. Et elle avait cette drôle de cuillère qu'elle me donnait quand j'étais petite avec les deux embouts.
Le gras et le maigre.
Exactement, pour avoir le gras ou le maigre. Donc, pour ceux qui ont un peu peur du gras, eh ben on leur met cette cuillère-là et ils se font avec leur cuillère la part maigre. Et
ça déculpabilise. Oui.
Exactement.
Voilà. Mais il y a toujours des saucières comme ça.
Il y a toujours des saucières gras et maigres. Non, moi je suis pour une réhabilitation de la saucière.
À fond, mais lançons une pétition pour le retour de la saucière. Voilà un mouvement important, vraiment, mais je suis d'accord avec vous. Et surtout en ce moment, Eric Trochon, Charlotte et Ophélie, on est confinés, on se retrouve en couple, en colocation ou en famille. Eh bien, la sauce, c'est du liant, c'est un trait d'union dans un repas.
Et c'est le liant de la cuisine française, c'est-à-dire que les éléments en cuisine française sont liés par la sauce. C'est ce qui fait la sociabilité dans l'assiette. Mais ça fait aussi la sociabilité autour de la table.
Oui.
Et quand on a terminé que tout le monde sauce avec du pain, en mettant les doigts, moi je suis ravi et je me régale en tant que chef.
Eric Trochon, là on parle de jus de veau, des auditeurs végétariens nous écoutent, est-ce qu'on peut faire des jus de légumes?
Oui, là aujourd'hui on a beaucoup travaillé dessus, donc pareil, caraméliser des oignons, pour avoir ce côté oignon, et nous, ça c'est un truc que j'ai trouvé dans un vieux livre de cuisine, c'est caraméliser du panais également.
Ah,
et vous avez avec le panais, si vous le caramélisez bien, vous fendez votre panais en deux, vous le mettez dans une poêle Tefal et vous le faites caraméliser sans matière grasse.
D'accord.
Et vous allez le mettre en infusion dans ce jus d'oignon et vous allez cuire avec thym, laurier et vous allez voir comme un jus de viande, mais purement végétarien.
Et vous le servez avec quoi, ça, par exemple?
Ça, nous, on les
une
sert
côte à... de bœuf
Non,
rien suivi.
Non, mais on
avec
va le servir
pâtes.
Avec des pâtes, avec des légumes. Et l'idée, c'est pas de faire... on n'aura jamais le résultat d'un jus de viande. C'est pas l'idée, c'est au contraire d'en faire quelque chose de totalement différent. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se faire piéger.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, par exemple,
Ophélie? Et oui, petit point vin, qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on sort comme vin. Eh bien, on va d'abord regarder la couleur de la sauce ou du jus. Ça aide beaucoup. Plus c'est clair, plus on va prendre un vin clair. Une sauce presque translucide, vous allez prendre un rouge léger. Une sauce brune, vous allez prendre un rouge
assez charpenté, ouais, assez costaud. Et puis alors, du côté des blancs, on va pas raisonner tout à fait pareil pour les sauces blanches, selon moi. On va regarder la structure. Est-ce que c'est gras? Est-ce que c'est pas gras? Évidemment, quand on parle de pané, quand on parle de choses avec peu de gras, on peut prendre des blancs assez tranchants, de la Loire, même un muscadet, ça peut être top. Et puis, plus vous allez mettre de beurre avec une sauce au beurre blanc, on peut aller vers un Côte-du-Rhône blanc, par exemple. C'est bien gras, c'est bien ample, et puis ça accompagne la sauce, et hop, tous ensemble.
Vous validez, Eric Trochon?
Ah, je valide complètement. Et puis surtout, utilisez les vins éponymes. Si vous faites une sauce bourguignonne, vous prenez un pinot noir, vous avez quelque chose de magnifique.
Pas de cuisine fusion, là. Hein. On évite quand même.
Cuisine et fusion.
Ouais. On a
compris. Ah, joli, joli.
Moi, il m'arrive effectivement de cuisiner une sauce quand j'ai pas besoin de beaucoup de vin, je sers la suite du vin à table. Bah, et
exactement.
Je suis sûre d'avoir mis un très bon vin dans ma sauce. Au
moi, des fois, elle attend même pas la table.
Merci d'être venu à la table des bons vivants, Eric
Merci
Trochon.
Infiniment.
Vous avez votre ronde serviette ici, hein, vous le savez.
C'est gentil.
Et à partir de mercredi, on peut commander chez vous au restaurant Solstice pour la vente emportée. Hein.
Absolument. Des plats à partager. Il y aura pas, c'est pas un menu. Hein, c'est, on vend des plats pour partager, se réconforter dans ces temps difficiles.
Et si vous voulez faire des sauces à la maison, je vous rappelle le livre d'Éric Trochon, meilleur ouvrier de France, Les sauces, leçons en pas à pas aux éditions Duchesne. Merci Éric d'être
Merci
venu.
Merci à tous.
Et bonne route et à très bientôt. C'est l'heure d'accueillir notre invitée. Originaire de Mont-de-Marsan, elle est issue d'une longue lignée de restaurateurs. Elle se destinait à la gestion quand Alain Ducasse l'a poussée à cuisiner et à prendre le relais. Le relais, justement, c'est le nom du restaurant familial de l'époque. Des années plus tard, elle se partage entre Paris et Londres pour gérer et cuisiner. Amoureuse de la cuisine familiale, c'est la top chef Hélène Darroze, notre invitée. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour Hélène.
Ravie
Bonjour.
De vous recevoir à cette table. Première question déjà, comment ça va?
Ça va bien.
Ça va. Le moral est bon
parce Le moral que... est bon, ouais, parce que de toute façon, il faut qu'il
c'est
soit
compliqué.
Bon, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Hein. C'est compliqué, oui.
Vos restaurants sont fermés, mais vous pratiquez la vente à domicile.
Alors,
quand même.
Les trois restaurants sont fermés. On pratique de la vente à domicile sur Joya, celui qui est plus bistronomique. On va, je pense, lancer une offre un peu plus premium sur Marsan.
Votre restaurant du 6e arrondissement.
Voilà, et sur Londres également. Ouais. Voilà. Et puis, on a cette offre burger aussi qui cartonne. Et voilà, je pense qu'on va aussi faire un point de vente sur Marsan parce qu'on n'arrive pas à couvrir tout Paris. Et puis, on a des reproches. Du coup, on va essayer.
Voilà.
Alors, restez avec nous, chers auditeurs, parce qu'on va déguster les burgers made in Hélène Darroze tout à l'heure. Et vous allez voir qu'on a de beaux croisements basco-landais dans l'assiette. Vos origines, vous êtes né à Mont-de-Marsan, je le disais. Alors, vous venez nous voir aussi avec un joli livre qui s'appelle « Chez moi ». C'est un livre que vous avez fait pendant le premier confinement. Là, il s'agit de recettes automne-hiver.
Ouais, hein. Ce qui veut dire que bientôt, il y aura aussi le printemps et l'été.
Et ben voilà. Voilà. Mais c'est vous qui avez fait les photos, des recettes
ouais,
avec
ben
vos
voilà,
filles.
Voilà, c'est vraiment un livre qu'on a fait en famille. On a fait les recettes en famille avec mes filles et puis à un moment donné avec mon neveu aussi, qui lui m'a aussi beaucoup aidé sur la rédaction des recettes, etc., qui m'a donné un coup de main. Les photos, je les ai faites moi avec mon portable, quoi, en fait. Hein.
Oui, mais c'est bien parce que c'est ça que j'aime. Hein. Moi, j'aime les livres de cuisine où le plat photographié ressemble à celui qu'on fera à la maison.
Ah, ça ne peut pas être plus vrai
là,
sur ces photos-là.
Une belle pintade à l'oignon, des travers de porc au sirop d'érable et à la noix de pécan, des coups d'agneau frottés avec du rassel ranout et confit aux agrumes. Oh, c'est beau, ça, on y est. Et
j'aime... C'est vraiment une cuisine familiale. Quoi.
Oui.
C'est une cuisine de maison qu'on met sur la table. Voilà, c'est la cuisine que j'ai faite à mes enfants, à ma famille pendant le confinement. Donc, ça ne peut pas être plus réel.
Ça
quoi.
Correspond à votre hashtag fétiche. Si ce n'est pas le bonheur, ça y ressemble.
Exactement.
Quoi, c'est ça
exactement
Quel
c'est
est
ça.
Votre goût de la semaine, Hélène Darroze?
Mon goût de la semaine, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui a été écrite par une journaliste qui est aussi une de mes amies, qui s'appelle Catherine Rouag, sur la Provence. Ça s'appelle La Provence et le livre est magnifique.
Très
les photos
livre, oui.
sont magnifiques, les recettes sont juste pareilles, quoi, des recettes comme ça qu'on a envie de faire pour la famille, à partager avec des amis.
C'est une évasion et on a besoin de ça en ce
ah
moment.
Ah ouais, mais c'est vraiment, je trouve, le livre à offrir pour les fêtes de Noël parce qu'il est sublime.
Avec voilà. le vôtre quand même.
Avec le mode, mais c'est pas la même ambition, mais oui, bien sûr, avec le mien.
Ces derniers temps, on voit de nombreux restaurants naître sur les applications et les plateformes, des restaurants qui n'ont pas d'adresse pour recevoir des clients. C'est ce qu'on appelle les dark kitchens. Alors on a demandé à Charlotte, à vos côtés, Hélène, d'enquêter sur ces dark kitchens qui sont une concurrence, il faut bien le dire, pour les adresses comme vous qui ont fait physiquement des endroits pour recevoir.
Oui, Laurent, les dark kitchens ou les cuisines fantômes, hein, on dirait le titre d'un film d'angoisse, et puis elles pourraient bien vous entraîner du côté obscur de la cuisine. Les dark kitchens, ce sont des cuisines à part entière qui ont une carte, une brigade, une addition comme au restaurant, mais pas de salle, de personnel, de table, ni rien en fait de ce qui fait la convivialité d'un restaurant. C'est un resto virtuel et puis pas très poli en fait parce qu'il n'accueille jamais ses clients chez lui et qu'il ne propose que des plats à la livraison.
Elle est intriguée, Hélène Darroze, mais elle sait de quoi on parle, hein, je
ouais,
pense.
Ah ouais, bien sûr.
Elles sont apparues très récemment chez nous, c'est Dark Kitchen. D'où ça vient,
oui,
ça?
Oui, elles sont très répandues en fait aux États-Unis et en Angleterre. Hein. Le concept ici séduit les jeunes entrepreneurs et les gros poids lourds de la livraison parce que la Dark Kitchen, c'est un peu le Amazon hein, de la restauration. Ouais. Ça permet de réduire les frais, d'économiser sur le personnel et de s'installer dans plusieurs grandes villes. À la fois, quelques exemples, hein, Taster, créé par un ancien Deliveroo, qui livre les mêmes plats à Londres, à Paris, à Dubaï. Maison Poké, qui est née de l'association entre Côté Sushi ou Uber Eats, où il y a même un pionnier en France qui s'appelle Dark Kitchen. Hein. Elle propose donc tantôt de la street food ou des plats maison. Elle cible surtout les déjeuners hein, des employés de bureau et un peu comme des cantines digitales en fait.
Alors il y a Frishti, il y a Nestor, il y a Pop Chef. Est-ce que ces Dark Kitchen peuvent devenir une concurrence inquiétante pour les vrais restaurants en fait?
Eh bien évidemment, le Covid a tout changé. Hein, la livraison, ça ne marchait pas en France, figurez-vous, avant. Hein, c'était un dépannage luxueux, on va dire, pour les Français. Elle est devenue cruciale depuis le confinement pour les petits restaurateurs qui essayent de s'en sortir. Hein. Donc tout le monde se retrouve sur le même créneau. Alors restons quand même optimistes, on en a un peu besoin en ce moment, parce que moi je trouve qu'elles ont beau être disponibles en un clic, c'est Dark Kitchen, mais quand on n'a ni chef, ni personnel, ni lieu, ni ambiance, moi je trouve ça un peu difficile d'incarner un type de cuisine. J'imagine mal les Français se repasser sous le manteau les bonnes adresses de plateformes virtuelles, hein, comme pour des vrais restaurants. Donc un petit resto, c'est l'assiette, bien sûr, mais c'est aussi le petit menu sur l'ardoise, le personnel en chair et en os, le patron qui râle, le bouchon qui saute. Et même en livraison, moi je trouve qu'on retrouve un peu de cette chaleur, surtout que les chefs mettent souvent des petits mots pour qu'on prenne soin de leur plat, comme si on était un petit peu encore chez eux, encore au restaurant. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez éviter de les voir remplacés au déconfinement, si vous voulez éviter cette mauvaise surprise, si vous voulez éviter qu'ils soient remplacés par des enseignes virtuelles, une seule chose à faire, si vous commandez, bah commandez chez eux.
Chez les vrais restaurateurs, on en parlait déjà tout à l'heure dans le journal de la cuisine avec McDo, qui fait une concurrence effectivement avec les McDrive, qui est terrible au restaurant d'à côté. Donc soyons citoyens et commandons de temps en temps le plus possible au restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez de ces Dark Kitchen, Hélène Darroze?
Ces Dark Kitchen, il faut quand même savoir qu'elles nous démarchent aussi régulièrement pour qu'on aille des plats chez eux. Quoi, hein. Donc il y a bien un manque quand même d'incarnation, comme vous dites, de convivialité ou d'image même, hein, carrément. Hein. Ce que j'en pense, c'est ce que vous venez de dire, c'est que voilà, on a vraiment besoin d'être aidé, d'être soutenu.
À propos de nourriture incarnée, on en a besoin. On revient dans un instant avec le burger d'Hélène Darroze qui sera à notre table. Et vous pourrez même le refaire parce qu'elle va nous donner la recette, Hélène Darroze. Elle est avec nous jusqu'à 12h30. Ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. Bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Et bon samedi sur Europe 1. Le vrai camembert, c'est AOP, au lait cru de Normandie.
Sur ce côté chlorophylle.
Et il est beau ce veau, il a fière allure, il a le béret sur la tête.
Europe 1, 11h30.
Un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre, ça c'est délicieux aussi.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Merci de nous retrouver, si vous venez d'arriver, nous sommes ensemble depuis 11h et on dresse le couvert jusqu'à 12h30. Alors de la bourguignonne à la bordelaise en passant par le jus de veau, nous avons saucé dans la première partie de l'émission avec le chef Éric Trochon. Nous avons aussi récolté, cuisiné le piment d'Espelette et nous revoilà avec la chef Hélène Darroze. Tout se passe bien, Hélène?
Tout se passe parfaitement bien.
Le piment d'Espelette, c'est votre culture, ça?
C'est ma culture, c'est la base de ma cuisine, de l'assaisonnement de ma cuisine. C'est un réflexe qu'il faut prendre quand on vient travailler chez moi. On n'assaisonne plus avec du poivre, mais avec du piment d'Espelette.
Et oui, il chauffe, mais il ne pique pas. On peut faire un clin d'œil aussi à votre cousin Alain Darroze, hein, qui fait du pimençon.
Voilà.
Racontez-nous ce que c'est.
Alors, c'est un vin blanc dans lequel il fait mariner des piments. Alors, pas d'Espelette, hein, c'est du piment d'Anglette.
Ouais,
hein,
mais
voilà, voilà, c'est du piment doux d'Anglette. Mais voilà, donc c'est un vin assez original et très rafraîchissant. Et,
Ça a goûté, ça fait partie des choses qu'il faut avoir goûté dans sa vie.
C'est du gros mansin, c'est ça le raisin utilisé, c'est du gros mansin.
Exactement, qui est vraiment un cépage de chez nous. Quoi,
typique
avec lequel
sud-ouest.
On fait le l'Armagnac aussi. Et voilà.
Vous venez nous voir avec votre dernier livre, Chez moi, paru aux éditions Cherche Midi. Ce sont les recettes que vous avez mises au point pendant le premier confinement. Une collection automne-hiver. Il y aura le printemps-été qui débarquera bientôt. plateau. Vous avez écrit aussi un joli livre, Hélène Darroze, qui s'appelle « Personne ne me volera ce que j'ai dansé », dans lequel vous vous adressez à votre amour de jeunesse. Vous dites que vous avez dans ce livre...
Oui, c'est très autobiographique. Et tout n'est pas... Mais il y a beaucoup d'autobiographie.
Un petit peu.
Oui.
Vous dites que vous avez la sensibilité à fleur de peau dans ce livre. Comment ça s'exprime en cuisine pour vous, cette sensibilité à fleur de peau?
Ça s'exprime dans le fait que chaque plat, il n'est pas anodin, quoi. Il parle de moi, c'est le souvenir d'un voyage, c'est le souvenir d'une rencontre, c'est bien sûr le souvenir de mon éducation. Je suis née dans une famille de cuisiniers, dans un terroir où on aime cuisiner, partager, manger, etc. Donc, j'ai l'impression que chaque chose raconte quelque chose de moi, quoi.
Lors de la disparition de votre grand-mère, qui était très importante pour vous, vous avez refait la recette des tomates farcies. Alors, là, il s'est passé quelque chose. Enfin, racontez-nous.
Ouais. Ce soir-là, oui, j'ai dû aller travailler. C'est vrai que ma grand-mère était très, très importante pour moi. Et ce soir-là, j'ai dû aller travailler parce que je savais qu'il y avait un journaliste très important dans la salle. Et je me suis mis à cuisiner parce qu'il fallait un peu oublier la peine, la douleur, etc. et être dans le travail. Et j'ai cuisiné une tomate farcie. Comme ça, ça m'est venu avec ce que j'avais sous la main. Et c'est une recette qui a été très, très appréciée et que je fais toujours très régulièrement, d'ailleurs. Et puis voilà, quelques mois après, je me suis aperçue qu'en fait, un des plats que je préférais de ma grand-mère, c'était ses farcis. Elle faisait des tomates farcies, des pommes de terre farcies, en général les deux à la fois. C'était juste sublime. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre le fait que j'ai cuisiné ça ce soir-là, sans l'avoir réfléchi, sans l'avoir...
C'était instinctif, spontané.
Instinctif, c'est ça.
Et est-ce qu'elles avaient le même goût que celle de votre grand-mère?
Non, pas du tout.
Qu'on n'arrive jamais à
reproduire.
Non, pas
du tout, parce qu'elles étaient très, très différentes. Ouais. C'était dans un restaurant étoilé, donc c'était une farce à base de trois viandes, c'est de l'agneau confit, c'est du confit de canard, c'est du foie gras de canard, donc et puis je mets des champignons dedans, c'est très très différent, mais donc elles sont très très différentes et pas comparables,
mais c'est une cuisine du souvenir, quoi.
Exactement. Je sais pas, ce jour-là j'ai cuisiné ça, allez savoir pourquoi, j'étais un peu ailleurs, j'ai cuisiné ça.
C'est l'heure du plat du jour à la table des bons vivants, Hélène Darroze, et c'est un plat signé Hélène Darroze. Vous pensez bien, le burger, vous nous en parliez, parce que vous faites une offre de burger actuellement en vente à emporter dans vos restaurants. Vous êtes venu avec quelques burgers, alors racontez-nous la recette que vous avez mise au point d'ailleurs.
Alors, il y a plusieurs burgers, mais ils ont tous une même base, le même buns.
Le pain burger, ouais.
Voilà, le même pain burger que fait mon boulanger dans la pâtisserie de Marsan, en l'occurrence la pâtisserie centrale de mes restaurants. Ensuite, il y a du ketchup dedans, qui est ma recette. J'espère qu'ils vont être chauds, par contre. Ils arrivent depuis le deuxième.
Va les décrire avec un beau bun, un beau pain burger, avec des petites graines de sésame par-dessus.
Voilà, exactement. Et alors ensuite, ce ketchup, c'est un ketchup, il y a de l'acide, du sucré, donc un peu de sucre, deux types de vinaigre, du jus de citron, et puis bien sûr plein d'épices.
C'est très bon.
Oh non, c'est trop bon.
Désolée pour les
auditeurs, ils peuvent pas en manger. On a tellement de chance.
Alors, parce qu'il y a plusieurs parfums, si je puis dire, dans ces burgers. Racontez-nous.
Le burger Artsaina, qui veut dire berger en basque, qui est avec du brebis basque. C'est un brebis basque que me sélectionne Beignat, le fromager de Saint-Jean-de-Luz bien connu, qui est sur la halle de Saint-Jean-de-Luz.
Une institution.
Voilà, une institution. Donc c'est pas un brebis basque trop fort, c'est pas un brebis basque ni trop vieux ni d'estive. C'est un brebis basque qui apporte son goût.
Oui, on sent bien la brebis. Ouais.
Voilà, donc ça c'est Artsaina. On a le burger Panchoa. Ça, c'est le prénom de mon papa en basque. C'est avec du foie gras. Un foie gras des Landes, bien sûr.
Bon foie gras du sud-ouest.
Voilà, foie gras du sud-ouest des Landes. Qui est juste rôti, juste une belle tranche épaisse.
C'est un clin d'œil au tourne d'eau Rossini façon burger,
un petit peu.
Il y a un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on peut boire, tiens, Ophélie, avec le joli burger d'Hélène Darroze, avec le brebis basque et le bon bœuf?
Oh, il faut du fruit. De toute façon, on ne va pas aller chercher les grandes appellations. On ne va pas aller chercher la structure tannique, on va au contraire chercher des vins très fruités. Alors pour les gens qui aiment les vins nature, les vins sans soufre, là c'est parfait, un rouge sans soufre, un Beaujolais avec ce cépage gamay qui s'exprime déjà très franchement, des arômes de fraises écrasées. On peut même aller un peu en Côte-du-Rhône, tout simplement si on veut quelque chose de plus gourmand, pour enrober un petit peu la viande avec un peu de gras, un petit peu d'alcool. On peut aussi aller du côté de la Loire, il y a plein de possibilités, et on peut même descendre dans le sud-ouest pour coller un petit peu avec le côté poivron, le côté brebis. Mais encore une fois, on ne va pas chercher du côté des tanins qui pourraient agresser un petit peu le burger. Hein. Il faut rester dans quelque chose d'assez rond et gourmand.
Jolie sélection. Hein. Vous validez, Hélène ?
Je valide.
On va chercher pas du côté des sodas non plus. Hein.
La crise frappe les restaurants, mais aussi les vignerons. Alors, Ophélie Neyman, vous nous avez préparé un plan de soutien des vignerons indépendants. Un plan de soutien pour votre cave aussi, chers auditeurs. Ce sera juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Et oui, nous déplions les rallonges pour vous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec notre invitée, la chef Hélène Darroze, qui est venue nous voir avec son dernier livre « Chez moi », une belle compilation de recettes mises au point pendant le confinement. Vous êtes en train de tourner la saison 12 de Top Chef, Hélène.
Hein ? Exactement, ouais, c'est vrai.
Alors, qui va gagner ?
Alors là, vous savez que c'est vraiment un gros point d'interrogation parce que cette année, les candidats sont très très forts. C'est d'une homogénéité et c'est difficile aujourd'hui de savoir qui sera le gagnant en finale. C'est vraiment, c'est tous le mérite.
Vous en êtes tout au début, au milieu là,
on en est au milieu. Il ne reste plus que 7 candidats là. Donc oui, on a dépassé le milieu.
Vous avez bien avancé. Vous parliez de transmission tout à l'heure avec votre grand-mère, votre transmission avec vos filles, on le voit dans le livre. Mm-hmm. La transmission avec David Gallienne aussi, à qui vous avez porté bonheur dans Top Chef.
Oui, enfin, j'ai porté bonheur. Oui, après, David, c'est aussi un très grand cuisinier.
Jardin des Plumes à Giverny, qui fait des lives sur Instagram d'ailleurs en ce moment, si vous voulez cuisiner avec lui, vous pouvez aller voir, il fait des lives sur Instagram, David Gallienne. Les restaurants sont fermés, Hélène Darroze, et les salons vin et gastronomie aussi, c'est des lieux importants, vous êtes d'accord normalement ça, pour se retrouver ?
Bien sûr, pour se retrouver, pour
partager.
Pour partager, pour connaître mieux, c'est... Ouais, c'est...
Et quels sont vos vins préférés, vous ? C'est quoi, c'est les vins...
Alors, moi, je ne bois pas beaucoup de vin. Moi, je préfère les vins rouges aux vins blancs, ouais. Et c'est vrai que je suis née presque dans le Bordelais, quoi, donc c'est vrai, mais bon, j'aime aussi beaucoup les Bourgognes, quoi. J'aime des vins assez légers, plutôt légers et plutôt fleuris, plutôt floraux, voilà.
Alors justement, vous allez nous aider à faire salon dans notre salon Ophélie Neyman aujourd'hui pour soutenir les vignerons, parce qu'il y a quand même des idées justement pour les soutenir. C'est bien ça, hein ?
Absolument. Et on commence d'abord avec une petite dégustation d'un vin que je vous ai apporté. C'est un petit vin, ça coûte entre 11 et 12 euros chez les cavistes. Si ça vous tombe sur le pied, vous serez content parce que c'est Vincent et Tania Carême qui le font. Vincent Carême, c'est vraiment un des chefs de file de Vouvray dans la Loire. Et ça, c'est vraiment leur petite cuvée qui s'appelle Spring. Alors, ça appelle le printemps, ça rappelle l'espoir et la renaissance. Et vous avez vu cette matière en bouche, comme elle est belle, comme c'est frais, c'est fleuri, ça sent un petit peu les herbes de tisane, il y a un petit peu de tilleul dedans, il y a chose de très frais, avec des fruits très doux comme ça. Il a la température parfaite, la structure est légère, c'est fin, c'est pas trop gras, c'est beau. Et ça, c'est un vigneron indépendant qui le fait. Et normalement, il est sur les salons de vignerons indépendants. Alors, je voulais juste faire appel à vos souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez les premières fois où vous avez acheté du vin pour vous constituer une petite cave ?
Ah, bonne question, Hélène Darroze. C'était peut-être auprès d'un de vos fournisseurs, non ? Avant, déjà,
relais ? Je vais vous dire la vérité. Je donne cette tâche-là à mes sommeliers, quoi, en fait. C'est eux qui me constituent un peu ma cave.
Charlotte ?
Mais c'est vrai que le déclenchement pour un achat comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est quand on voit le vigneron, qu'on discute avec eux, qu'on a un contact direct. Parce que je ne me suis jamais dit, tiens, je vais m'acheter une caisse de tel vin en allant dans une grande surface, par exemple. C'est vrai qu'il faut voir les gens.
Il faut parler, il faut goûter. Alors, si vous habitez près d'une grande ville, vous avez sûrement fait comme moi, c'est comme ça que j'ai fait en tout cas, vous avez acheté des bouteilles au salon des vignerons indépendants. Oui. Normalement, ça se passe à l'automne, en ce moment, quoi, à Lyon, à Reims, à Clermont-Ferrand, à Lille, à Paris, bien sûr, et c'est toujours une ambiance très particulière. On se bouscule, on goûte, on crache si on veut terminer le salon debout, en tout cas. On repart important. Très heureux avec quelques cartons mal empilés sur un diable à roulette comme ça, puis on essaye de circuler. Et puis d'année en année, on affine ses préférences, on reconnaît les vignerons, on refait le stock, on progresse.
Alors cette année, c'est fermé, tous ces salons sont fermés. Ça vous manque, Hélène, cette ambiance, justement ?
Oui, ça me manque, oui. Moi, je, même si je ne vais pas souvent dans les salons, mais ça me manque. Hein, et puis, ça manque à nos restaurants parce que c'est vrai que les salons aussi sont vecteurs de clients. Quoi, hein, ça, c'est clair et net.
Il se passe des échanges.
Voilà.
Absolument. Alors, il y a une solution pour tous ceux qui regrettent le rituel et puis ceux qui veulent soutenir les vignerons indépendants. Je rappelle que c'est quand même 55% de la filière viticole. Hein. Ça s'appelle le salon dans mon salon. et ça se passe confortablement devant votre ordinateur pendant les dates prévues des salons pour garder justement ce rituel de la date. On peut commander tous les vins de tous les vignerons qui sont normalement présents. Et c'est pas rien. Pour rappel, à Paris, Porte de Versailles, il y a un millier de vignerons.
Comment ça se déroule concrètement, Ophélie, la logistique? On entre en contact avec chaque vigneron et ensuite il nous envoie son vin, c'est
mais
ça?
Mais non, c'est beaucoup plus simple, enfin,
ah bon,
Laurent. Mais oui, sur un seul site, on va retrouver toutes les cuvées et qu'on peut recevoir en un seul envoi groupé. En gros, on peut commander 150 bouteilles de 150 vignerons différents si ça nous chante et on reçoit quand même tout en même temps, tranquillement, chez nous. Et c'est de la vente directe, hein. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc financièrement, c'est toujours intéressant.
Et c'est pratique ça. Donc les prochaines dates des salons où on pourra acheter?
Le salon de Lille du 19 au 24 novembre et le salon de Paris du 2 au 8 décembre. C'est sur vente-direct-vigneron-indépendant.com, rubrique salon.
Et ben on mettra les références sur europe1.fr. Belle initiative. On soutient nos restaurateurs, mais on soutient nos vignerons aussi.
Et tous les producteurs qui sont en dessous de nous, parce que c'est vrai.
C'est un effet domino.
Ils souffrent autant que nous, quoi, hein, c'est clair.
Faisons nos courses, achetons français, achetons local, achetons de saison. Mais voilà, c'est vrai que plus que jamais en ce moment, il faut que, comme on l'a fait pendant le premier confinement, on retrouve ces réflexes de gestes citoyens, d'aller acheter à côté de chez soi.
Rester fidèle
auprès des producteurs, hein, effectivement.
On a la chance que les marchés soient ouverts encore, donc il faut en profiter, il faut y aller, quoi.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le grill des bons vivants et la chef Hélène Darroze. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Généreuse, elle partage ses recettes maison dans son dernier livre « Chez moi » paru aux éditions du Cherche Midi. Chez moi, c'est chez elle. Hélène Darroze, notre invitée, des recettes mises au point pendant le premier confinement. Là, on est sur la collection automne-hiver. C'est vrai que ça tombe bien, on a du temps. Tiens, une petite ventrèche de thon comme un steak au poivre. Hein, ça ne peut pas faire de mal ce week-end.
Avec des grosses frites.
Comment vous les faites, les frites? En friteuse ou au four, vous?
Alors, je l'ai fait en friteuse et à la graisse de canard.
Ah,
mais justement, je voulais essayer au four.
C'est pas mal au four.
Ouais. Mais alors après, ça dépend des fours qu'on a aussi. Hein, mais
Chaleur assez vive. J'en ai fait avec du piment d'Espelette cette semaine. Justement, je les ai taillés en frites, mes pommes de terre grossièrement, bien imbibées d'huile d'olive et un sel aromatisé au piment d'Espelette à 240 degrés. Et en même pas une demi-heure, vous avez des frites qui sont un peu saisies et puis moelleuses à l'intérieur.
Ça, on aime.
Ça m'intéresse.
Dans votre livre « Personne ne me volera ce que j'ai dansé » que j'évoquais tout à l'heure, Hélène Darroze, vous déclinez les sentiments, vous leur donnez une place importante en cuisine. Et il y avait une anecdote amusante dans ce livre, vous parlez de la jalousie. Est-ce qu'il y a un plat dont vous avez été jaloux?
Chaque fois que je vais chez Alain Passard, par exemple, je suis jalouse parce qu'il y a des plats de légumes tellement fabuleux, ou même là, si on suit son compte Instagram, il fait de ces mariages tellement simples et tellement...
Des associations,
avec des produits, justement, de petits producteurs. Donc je me dis, mais mince, pourquoi j'y ai pas pensé?
Où vous trouvez votre inspiration? Comment vous renouvelez vos pas et votre création?
Là, je trouve mon inspiration dans la saison, c'est clair et net, quoi. Je suis toujours à me dire, bon, ben là, qu'est-ce que j'ai sur le marché et comment j'ai envie de le travailler. Et je suis chez moi, en général, devant une feuille blanche et je commence à écrire des idées, des choses comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, je trouve mon inspiration en allant chercher au fond de moi un souvenir. Il y a des plats qui sont un peu signatures. Il y a un plat qui s'appelle Retour d'Hanoï que j'ai créé. Après un voyage important pour moi au Vietnam, il y a un plat aussi que j'avais fait après un voyage en Inde qui est une signature qu'on ne peut pas sortir de la carte. Donc, c'est la vie de tous les jours qui est inspirante, en fait.
Vous laissez remonter les émotions.
Hein. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que ça marche chez moi.
Et la patience, vous en parlez dans ce livre aussi que j'évoquais.
Oui, parce que la patience, chez nous, elle est primordiale, quoi. Ça ne sert à rien de cuisiner de la truffe noire maintenant. Il faut attendre encore quelques semaines. Ça ne sert à rien de cuisiner du cèpe en hiver, de la fraise en hiver, de la tomate en hiver. Il faut attendre. Il faut attendre. Il n'y a pas l'asperge, on attend le mois de mars.
Cuisinons avec les saisons.
Évidemment. C'est un leitmotiv, oui.
Et c'est autant d'inspiration en plus pour se renouveler, parce qu'elles sont là comme des rendez-vous, comme dirait Alain Passard. Allez, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Hélène Darroze.
On y va.
Avec de la graisse de canard, si vous voulez.
Ouais, d'accord. Ah oui,
la matière grasse officielle des Landes. Pas de beurre, malheureuse.
Non.
Quel est le goût de votre enfance, Hélène Darroze?
Alors, le goût de mon enfance, j'en ai beaucoup, hein, parce que j'ai vraiment grandi dans cette famille de cuisiniers. Donc, il y a la poule au pot, le poulet rôti, il y a plein de choses. Mais si je dois en retenir qu'un, je vais parler de ces beignets aux pommes que nous faisait à nous les petits-enfants, le dimanche après-midi, ma grand-mère, parce que le dimanche, on n'avait pas trop le temps de s'occuper de nous, puisqu'on était dans ce restaurant familial de province, où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et l'après-midi, on l'a supplié de faire, alors que la pauvre, elle avait travaillé énormément, mais on l'a supplié de faire ses beignets aux pommes. Elle cédait toujours en disant « Ok, d'accord, mais c'est vous qui pelez les pommes. » Et puis, on ne pelait jamais bien assez les pommes, donc elle finissait par peler les pommes. Et ses beignets aux pommes, personne, toutes ses belles filles, parce que et même sa fille, personne n'a réussi à faire les beignets aux pommes comme ma grand-mère, et moi non plus d'ailleurs.
Voilà, c'est le joli goût des souvenirs d'enfance. Le premier plat que vous avez cuisiné ?
Alors, le premier plat que j'ai cuisiné, je m'en souviens très très bien, j'étais petite, c'était pas un plat salé, c'était une tarte aux pommes, tout simplement. Voilà.
Manger des pommes, encore une fois.
Bah oui, voilà.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
Mon plus beau repas dans le sens inoubliable, il y en a eu plusieurs. Je me souviens de mon premier repas au Louis XV chez Alain Ducasse. Mes parents étaient avec moi, c'était juste un truc de dingue. Mon premier repas chez Michel Bras, il n'y a pas très longtemps, lors d'un tournage de Top Chef, avec mes collègues, mes complices, on fait souvent des très très bons repas quand on arrive chez les cuisiniers, quand on tourne à l'extérieur. Mais un chez Michel Guérard, il y a 3-4 ans, je dirais, qui était juste un truc de folie, une tourte de pigeon qui était juste magnifique avec une sauce. Vous avez parlé des sauces tout à l'heure, qui était juste incroyable. J'ai fait un repas aussi avec mes collaborateurs là, chez Juan Marie Arsac quand on avait notre pop-up à Saint-Sébastien qui était juste fou. Mais Juan Marie était à notre table, lui il mangeait sa soupe et il mangeait avec nous et on l'écoutait comme ça. Donc c'est aussi des moments. Quoi.
Plein de moments magiques. Et votre pire repas ?
Mais ça, mon pire repas, je ne me souviens pas vraiment. Je dirais que les pires repas, c'est chaque fois qu'il y a du melon ou du céleri dans le repas parce que je déteste ça. Et des fois, je me sens obligée de manger pour ne pas vexer les gens. Et ça, c'est voilà.
Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte, Hélène Darroze ?
Ça, c'est sur le poulet rôti.
Ah oui,
le poulet rôti.
Ça, c'est un classique.
Un bon poulet des Landes, attention.
Bien sûr, qui a gambadé. Un bon poulet jaune des Landes. Hein.
Voilà.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Il y en aurait beaucoup. Je dirais d'abord tous qui sont partis, qui ne sont plus là. Mais ma grand-mère dont on parlait tout à l'heure, mes grands-parents, une amie très chère. Voilà.
Johnny,
bien entendu, hein, parce qu'en plus, c'était un grand gourmand, quoi, hein, ça, c'est sûr. Voilà. Mais sinon, si c'était dans le monde des vivants, jusqu'à présent, je disais Michelle Obama, mais maintenant, j'inviterais bien aussi Kamala Harris.
Ah. Quelle est votre adresse secrète, Hélène Darroze ?
Mon adresse secrète, j'en ai plusieurs. Alors, ici à Paris, si je devais en donner qu'une, là où on peut me voir souvent, mais je ne sais pas si c'est si secret que ça. Avec mes filles, on adore la cuisine japonaise. Et on va souvent chez Yen, rue Saint-Benoît, dans le 6e, voilà, qui est
très
pour
bon
moi,
japonais.
Voilà, un très, très bon japonais.
Et
voilà.
Le mot de la fin, F-A-I-M ?
Le mot de la fin, je pensais à de parler une fois de plus à tous ces marchés qui sont ouverts aujourd'hui et de continuer à aller sur les marchés vivants tous les jours. Hein. En arrivant ici, j'en ai vu un pas très loin. Il y a de la viande, du poisson, des fruits. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Quoi, hein. Donc,
sortons avec notre attestation et allons faire le marché.
Exactement.
Et
je suis sûre qu'à un kilomètre, on a un marché une fois par semaine, ça c'est sûr.
À la campagne, c'est un peu plus compliqué, justement. Il faut aller à plus d'un kilomètre parfois, mais on a le droit d'aller faire ses courses ailleurs. Hein.
Ah oui, pour les biens essentiels, on peut tout à fait faire plus d'un kilomètre.
Bien entendu. Merci Hélène Darroze d'être venue à notre table. Je rappelle votre livre « Chez moi » aux éditions du Cherche Midi. Merci les filles, Charlotte Landrand.
Merci Laurent.
Ophélie
merci à toi.
Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescouroux à la rédaction en chef. Merci Jérémy Hébert à la réalisation. Et puis merci Agnès Vaudin à la programmation. Vous retrouverez les recettes et les podcasts sur europe1.fr. Bon week-end. Faites le marché, la cuisine donc, et le reste aussi. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.